ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Madame Nader Sir, vous êtes née en Lozère il y a 70 ans, vous êtes retraitée de la fonction publique, passionnée d'histoire sociale. Je vous remercie d'être venue à Radio Présence pour parler de vos convictions, de votre parcours comme historienne. Dès l'enfance, vous me disiez, passionnée d'histoire.
Oui, en effet, c'est en très jeune, à l'âge de 7-8 ans, j'ai eu une institutrice qui, à cette époque-là, il y avait la leçon de morale au début de la classe. Et elle nous prenait des personnages historiques pour nous illustrer, en fait, les qualités qu'elle voulait mettre en avant. Et donc, parmi ces personnages dont elle nous avait parlé, il y avait Jules Michelet, qui m'a beaucoup impressionnée.
Et ensuite, le bac, avec une spécialité plus ou moins. Alors là, c'est toujours la Lozère ou bien vous
non,
êtes déjà venue
Non, c'était...
Dans l'Aveyron, je
c'était
crois.
C'était dans l'Aveyron, oui, où j'ai eu un professeur d'histoire qui m'a fait comprendre ce que l'histoire était une science qui pouvait aider à comprendre le monde et le fonctionnement de la société. Et donc... c'est à la suite de ce cursus que j'ai décidé de faire des études d'histoire à l'Université donc, de Toulouse, où j'ai été l'étudiante de Roland de Trempé, qui était une spécialiste de l'histoire sociale et plus particulièrement de l'histoire du mouvement ouvrier en France, essentiellement.
Et des syndicats.
Et des syndicats.
Mais ce n'est pas la sociologie, alors c'est quelque chose
qui Non, c'est l'histoire sociale.
Et spécialité de 19e siècle.
19e, début 20e siècle. Et c'est l'histoire sociale qui m'a plus particulièrement intéressée.
D'où l'intérêt aussi de vos travaux, donc vos travaux sur la laïcité.
Oui, j'ai aussi un peu travaillé sur la laïcité, mais c'était un peu marginal. Ça, c'est dans le cadre de mon métier, puisque j'étais archiviste. Et donc, j'ai effectivement beaucoup travaillé sur la loi de séparation des Églises et de l'État.
Et en fait, je peux dire que nous nous sommes connus il y a presque plus de 40 ans en Pologne, au moment de Solidarnosc, où moi, je m'intéressais à l'histoire de l'Église en Pologne, mais vous vous étiez beaucoup plus intéressé plutôt sur le syndicat et Solidarnosc et les mouvements.
Oui, c'est-à-dire, Solidarnosc était effectivement une illustration de tout ce que j'avais appris et je voulais voir comment ça pouvait se mettre en œuvre en dehors d'une idéologie, de l'idéologie communiste qui était quand même très rigide.
Monseigneur Wojtyła, comme archevêque de Cracovie, a fait un petit peu pour faire tomber le mur. Pour faire tomber le communisme. Puis ensuite, alors, il est devenu le pape.
J'ai eu d'ailleurs la chance de pouvoir aller à l'archevêché de Cracovie pour voir comment se mettait en œuvre l'aide qui était apportée par les syndicats occidentaux aux militants de Solidarność qui étaient internés et surtout à leurs familles et voir l'organisation extraordinaire qu'il y avait à l'archevêché de Cracovie.
Alors, le lien entre la Pologne et la France, entre vos études comme historienne, vous êtes plus centrée, je crois, sur Jules Michelet.
Oui, j'ai beaucoup, par tradition familiale, puisque l'histoire de France de Michelet et l'histoire de la Révolution française de Michelet, qui m'a été léguée par ma grand-mère. Et donc, oui, j'ai beaucoup apprécié cet historien, mais bon, ça n'est pas le seul sur lequel j'ai travaillé. Et j'ai travaillé aussi en historienne à partir des archives.
Et ça nous aide aujourd'hui pour étudier la crise actuelle, le coronavirus, les tensions entre le gouvernement et la société civile.
Mais l'histoire aide toujours. Lorsqu'on connaît bien lorsqu'on réfléchit en historien, l'histoire est une science et donc ça nous donne des outils pour mieux comprendre comment fonctionne la société et comprendre quelquefois qu'il y a des choses qui ont été occultées et qui expliqueraient des phénomènes ou des prises de position, ou etc.
Dans la société et aussi dans l'Église. Je crois que vous aviez participé dernièrement à un colloque organisé par le CIF, le Service Incroyance et Foi, à l'Institut catholique de Toulouse, sur la gouvernance de l'Église et de la société. Loisy, l'historien.
Non, ça ne me dit rien.
Non,
c'est pas tout à fait ma culture, ça. Moi, ma culture est essentiellement historique. Je ne connais pas très très bien tout ce qui est de l'histoire de l'Église, oui, mais en historienne, pas en catholique ou en protestante. Ou en...
Mais dans votre famille, il y avait une double tendance, on peut dire, catholique
Mais c'est-à-dire, ma famille a été... La loi de séparation de l'Église et de l'État a créé des clivages dans ma famille et c'est vrai que j'en suis l'héritière. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas oublier.
Par exemple,
ou des choses qui m'ont marquée lorsque j'étais enfant. Par exemple, lors du baptême de mon frère, de mon petit frère, c'était juste avant le concile de Vatican II. Mon oncle, qui était protestant, n'a pas eu le droit de rentrer dans la cathédrale. Et ça m'a profondément choquée. Et en tout cas, interrogée.
Au catéchisme, comme fille, vous n'aviez pas le droit aussi, je crois, de participer à certains rites.
Oui, ben oui.
Cette différence, ça vous choque? Maintenant, peut-être?
Oui, j'ai eu des difficultés à comprendre certaines positions, quand j'étais, puisque j'ai eu une éducation catholique à la base, mais il y avait des choses qui me posaient question.
C'est de l'histoire passée, tout cela. Vous avez parlé de Vatican II. Il y a eu la réforme, on a ouvert les fenêtres de l'Église? Où il y a des séquelles.
On a un peu ouvert les fenêtres de l'Église, mais on a tendance actuellement. Il y a eu une tendance qui s'est manifestée à les refermer petit à petit, quoi. Donc c'est vrai que je suis assez sceptique là-dessus.
Même avec le pape François.
Disons que sur les positions de principe et sur les problèmes de société. Le pape François est relativement ouvert, mais il a une curie qui fait qu'il ne peut pas avancer peut-être aussi vite qu'il le voudrait. C'est le problème de toute institution et je suis quand même très sceptique et très méfiante par rapport aux institutions qui fatalement systématisent des idéologies et prennent des positions de principe qui me semble heurter un peu le libre arbitre.
Idéologie, dogme, c'est des termes qui signifient quelque chose pour l'historien, l'historienne.
Oui. On doit les connaître pour pouvoir analyser justement comment ça induit des comportements.
Des schémas structurants. La mémoire collective des groupes.
Oui, aussi, oui.
D'où l'affrontement, et alors que vous, vous appuyez plutôt sur les notions de solidarité.
Solidarité, libre arbitre, un peu ce que prônent des penseurs comme Élisée Reclus, par exemple, à la fin du XIXe siècle, ou Sébastien Faure, des penseurs qui sont proches des anarchistes, mais qui n'ont jamais soutenu, par exemple, la reprise individuelle, ou qui l'ont comprise, mais qui ne l'ont pas approuvée, et qui ont beaucoup fait, je pense, pour une éducation, justement, qui préserve le libre arbitre.
Vous n'êtes pas dans la position de la lutte des classes comme le développerait Karl Marx concernant la conscience ouvrière et le fait de développer une solidarité à l'intérieur d'un groupe, alors en s'opposant à un autre groupe.
Si, bien sûr que si, mais pas de manière pas de manière autoritaire. Pas de manière autoritaire. De fait, la société, elle est bien structurée en classes. Il y a des classes qui sont plus égales que les autres, je dirais.
Alors, ça veut dire que... on comprend pourquoi vous nous avez apporté le chant de l'Auvergnat de Georges Brassens. Et je crois que vous allez le commenter, ou il n'est pas commenté. Nous l'écoutons.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois. Quand dans ma vie, il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'hôtesse et puis sans façon, m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui, sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Nadège Cyr, vous êtes lozérienne, passionnée d'histoire, surtout d'histoire sociale, et vous avez choisi Georges Brassens, l'Auvergnat.
Oui, parce que ce chant de, cette chanson de Georges Brassens comprend trois couplets, et il me semble que ça résume bien la solidarité. L'Auvergnat qui donne du bois pour la chaleur et le bien-être, l'hôtesse qui fournit du pain pour la sécurité matérielle, et l'étranger qui n'a rien à donner mais qui donne son sourire.
Qui donne son sourire. Et en fait, aujourd'hui, dans notre société en crise, c'est un combat de tous les moments. Avec la chaleur et le bien-être, il faut la résilience, oui, par rapport à cette crise. Et donc, déconfinement.
Oui.
Et puis l'étranger, on sait que tous les jours, on en a parlé sur cette antenne, il y a des problèmes pour le renouvellement des papiers d'identité ou de la carte vitale, et que l'administration n'est pas au clair par rapport à la règle, par rapport aux principes, aux valeurs de la République. Alors, ces valeurs de la République, vous insistez beaucoup, oui, sur ces notions de laïcité.
Oui, il me semble que la laïcité est un des fondements de notre société. Toute religion respecte la dignité humaine, et à partir de là, elle a tout droit de cité. Et en plus, les religions imprègnent toutes les attitudes qui sont prises, enfin tout ce qui, ça commande toute l'idéologie, même si on n'en est pas conscient.
L'idéologie de chaque groupe qui veut se replier sur lui-même.
Oui, par exemple, le communautarisme, à mon sens, est un non-sens. Je veux dire, on est homme avant d'être catholique ou avant d'être juif ou musulman. Ou on est homme en tout premier, homme et citoyen.
C'est pour ça que vous êtes particulièrement sensible, je crois, aux analyses que fait Gérard Noiriel concernant ceux qui diffusent des moments de, enfin, ou des réflexes de haine ou de repli sur soi.
Oui, oui, par exemple, moi j'ai été très sensible au livre de Gérard Noiriel où il analyse en parallèle donc, Drummond, qui a été un des pères de l'antisémitisme moderne, et Éric Zemmour, qui actuellement emploie exactement les mêmes armes que Drummond pour diffuser un une idéologie anti-musulmane particulièrement sordide.
Vous avez choisi la cardabelle, cette fleur d'Écosse, pour illustrer le podcast. C'est un peu le baromètre, mais oui. L'historien ne prévoit pas.
Oui, mais ça fait partie de mon patrimoine familial, si vous voulez. C'est la fleur d'Écosse, c'est dont on se sert comme baromètre, puisqu'elle est clouée sur les volets et elle sert, si elle s'ouvre, c'est qu'il va faire beau, et si elle se ferme, c'est qu'il va pleuvoir.
C'est un peu comme le colibri dans certaines cultures, qui est ce petit oiseau dans les mines qui annonçait le coup de grisou.
Oui, peut-être.
Donc, la nature nous renseigne sur peut-être l'évolution de la société de l'homme, même quand c'est un virus qui est extrêmement dangereux, mais il signale les fragilités de notre société.
Oui, ben oui, 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 oui. Oui.
Et Dieu dans tout ça ?
Et Dieu dans tout ça, ben Dieu, il est Dieu.
C'est-à-dire ?
Mais moi, pour moi, bon, c'est une abstraction. Mais bon, j'ai je suis plus familière de de l'Évangile et de la personne de Jésus, en fait, qui est, comme disaient les révolutionnaires de 48, le plus grand des anarchistes. Donc pour moi, c'est ça, en fait.
Le Nouveau Testament.
C'est le Nouveau Testament.
Et la Bible comme production humaine.
Et la Bible, ce sont des livres de sagesse, comme aussi bien le Coran, bon, qui m'est pour moi d'accès beaucoup plus difficile parce que c'est pas ma culture, bon, parce qu'il se trouve que je suis née dans une famille de culture chrétienne et dans une société chrétienne, mais bon, tout livre, le livre de Confucius, le livre de la sagesse de Confucius, la Bible pour moi, ça se situe à ce niveau-là. Et d'autant plus, pour un historien aussi, c'est important de connaître la Bible dans la mesure où les sociétés, la société médiévale, par exemple, et la société du XVIe, XVIIe siècle est profondément marquée par la culture chrétienne et par toute l'idéologie chrétienne.
Oui, mais si on dit à la suite de Le Goff que le purgatoire a été inventé au Moyen-Âge, alors...
Peu importe. Pour l'historien, ce qui est intéressant, c'est de constater comment les hommes ont vécu les choses et comment ça s'est... Voilà. Après, bon, ben, les guerres de religion ne sont pas interprétées, par exemple, pareil, par quelqu'un qui est de culture protestante comme Madame Garrison ou quelqu'un qui est de culture catholique. Bon, c'est... Cette affaire aussi de culture particulière, sans aller vers le communautarisme, il y a des choses qui marquent quand même, qui marquent. Par exemple, la loi de séparation de l'Église et de l'État, pour un descendant, par exemple, de radical socialiste, c'est pas pareil que pour un catholique, quelqu'un qui est d'une famille très très catholique, voilà. Donc, ou l'histoire des camisards, par exemple, en Lozère, où bon, les familles ont été quelquefois déchirées par ça.
Henri IV et Louis XIV concernant l'édit de Nantes, c'est là la laïcité
on fait un peu un anachronisme là.
Vivre ensemble dans la société.
Parce que c'est l'édit de Nantes dans la dans l'esprit du temps, c'était révolutionnaire dans la mesure où ça permettait un État qui permet, c'était un État qui permettait la cohabitation de deux religions, mais ça n'a pas duré très longtemps. Bon, ça, de 1598 à 1685, ça n'a pas, et puis en plus, ça n'a pas été de tout repos, même si les deux religions étaient licites, ça n'a pas été de tout repos pour les protestants français.
Qui n'avaient pas le droit d'émigrer, en même temps qu'ils devaient se convertir. La religion prétendument réformée...
Oui, ben en plus qu'on l'appelle religion prétendument réformée, c'était profondément irrespectueux.
Jusqu'au moment où la Révolution française a imposé qu'on considère chaque citoyen, quelle que soit sa religion...
Oui, mais là déjà, on est dans un autre univers mental. C'est ça que les historiens expliquent et appréhendent. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, on n'avait pas les outils intellectuels pour aller jusqu'à une séparation franche entre l'État et le... Mais au fil du temps et avec les Lumières, etc., les mentalités ont évolué, ce qui a permis... au moment de la Révolution française, une première séparation de l'église, des églises et de l'État.
Que tout le monde puisse être enterré dans le cimetière à côté de l'église ou un peu plus loin, et que les enfants des couples non catholiques puissent être reconnus comme citoyens.
Oui.
Mais allons vite jusqu'à 1905, où c'est un autre débat entre les églises et l'État, et qui nous marque encore lorsqu'on va dire aujourd'hui, les évêques ont-ils le droit d'intervenir dans l'espace public pour souhaiter que certains lieux de culte...
Oui, alors à ce sujet, je voudrais lire un extrait d'un texte qui m'a été envoyé par mon amie Monique Cabot-Carillon.
Et c'est une personne qui est militante.
Alors, qui est présidente d'une association qui s'appelle Chrétiens pour une église dégagée de l'école confessionnelle. Voilà ce qu'elle écrit. Et c'est un texte qu'elle a envoyé aux journaux nationaux, donc à propos du libre exercice des cultes. Certes, il n'est pas question pour l'épiscopat catholique français de remettre en cause la laïcité, au moins en principe. Mais il faudrait rappeler à la République qu'elle est le garant du libre exercice des cultes. Alors là, je saute quelques... L'article 1er de la loi de séparation des églises et de l'État permet à tout citoyen, à tout Français, d'être reconnu comme citoyen, quelles que soient ses convictions. Il me semble tout à fait conforme à la loi que la puissance publique soumette des cultes à la réglementation commune aux autres assemblées, réglementation causée par la situation sanitaire actuelle. Décréter, comme le font les évêques de la conférence épiscopale, que la fête de Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l'épidémie, la fin du confinement sévère en matière de vie liturgique et sacramentelle, est indécent dans le contexte actuel. Dans notre République, les pouvoirs religieux ne sauraient imposer un type de fonctionnement contraire aux exigences de la santé. Ce texte, moi, je suis entièrement d'accord avec, et ça c'est exactement le reflet de ma pensée. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à le lire.
Oui, c'est peut-être un peu long au niveau des phrases, mais on retiendra que par rapport au principe de sécurité, par rapport à la question de faut-il limiter certaines libertés,
c'est pas
la question de l'État en tant que représentant de
l'État. À mon sens, ce n'est pas seulement une question de sécurité, comme vous dites. C'est aussi une question que tout citoyen, il y a une égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution plus égale que les autres. Et donc l'Église catholique est une parmi les autres.
Ça n'empêche pas que chacun puisse s'exprimer dans l'espace public.
Oui, ah ben oui, tout à fait. Mais demander une dérogation à la loi commune, pour moi, ça ne devrait pas être. C'est contraire à la laïcité, à l'esprit de laïcité.
Dans cette période de déconfinement, beaucoup ont exprimé le fait qu'il y avait des gestes barrières, qu'il y avait l'obligation de porter des masques dans l'espace public. Une réglementation, s'il n'y a pas de sanction, il suffit que chacun, en conscience, accepte ou n'accepte pas.
Oui, mais c'est pas ça. C'est une question de principe. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi Pentecôte pour les catholiques et pourquoi pas l'Aïd pour les musulmans ?
Un certain nombre de représentants de l'islam.
Ma conviction, c'est ça, en fait. C'est que tout le monde doit être logé à la même enseigne.
Voilà une
historienne. C'est ça le principe de laïcité.
On voit une historienne passionnée par vos convictions et également au niveau local, dans votre manière d'échanger sur vos idées. Donc, un mot peut-être pour conclure, avant de remercier Christophe pour son enregistrement. En tout cas, merci Madame Nadège Sir pour votre témoignage.
Merci à vous.